France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Si j'avais à abattre les cartes, je jouerais en priorité aujourd'hui la dame de cœur. D'ailleurs, elles sont trois dames de cœur. La première, Florence, dans le Loiret, concourt avec Benjamin. Elle avec sa viole de gambe, lui avec son théorbe, à faire voyager la musique des 17e et 18e siècles partout où cela est possible. Muriel, elle, avec son association Cover Dressing au Havre, a décidé les femmes à se vêtir sans être piégées par les canons de la mode et du formatage. Nous la rejoindrons dans la deuxième partie de ces carnets. Et puis auparavant, je vous aurais présenté Pauline, créatrice d'un média d'ultra proximité. Il s'appelle Mon Petit 20e. Il n'a rien à voir avec le siècle, mais avec l'arrondissement parisien.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Florence Bolton, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi la rêveuse, Florence ?
Ah, la rêveuse. Bon, on a besoin du rêve un peu dans cette société. C'est une très belle pièce d'un compositeur qui a écrit pour la viole de gambe, son instrument, Marin Marais. La rêveuse, et avec Benjamin Perrault, l'autre directeur artistique de la rêveuse, on aimait beaucoup jouer cette pièce, parce que moi je joue de la viole et Benjamin joue du théorbe.
Ouais.
Ça faisait partie de nos pièces fétiches, et puis on s'est dit, bah en plus avec ça, avec un titre comme ça, on pourra peut-être apporter aussi un peu de rêve aux gens.
On peut dire qu'il y a un renouveau de la musique baroque aujourd'hui ?
Alors, ça fait longtemps qu'il y a un renouveau, finalement, parce que la musique baroque, enfin les instruments anciens, on les a redécouverts, on les a abandonnés à la fin du XVIIIe siècle, puis on les a redécouverts vraiment dès la fin du XIXe et au début du XXe, avec la naissance de la musicologie, tous ces trucs-là, un intérêt pour l'histoire aussi, qui se développe dès le XIXe. Mais chaque époque apporte son renouveau et son lot de nouveautés. Donc la musique baroque qu'on joue aujourd'hui ne ressemble pas à la musique baroque qu'on jouait il y a 30 ans ou 20 ans. Voilà, donc chaque époque est différente.
Ouais. Depuis l'année dernière, 2021, vous inaugurez un projet de spectacle et d'action culturelle autour des oiseaux dans la musique. Dès qu'on dit musique et oiseaux, on pense à Olivier Messiaen.
Oui, et c'est vrai qu'on pense toujours à lui. Mais il y en a plein d'autres, et c'était un peu, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, finalement, Olivier Messiaen. Et c'était un peu l'idée de ce projet, de faire découvrir l'histoire de la cohabitation de l'homme et l'oiseau qui débute à la préhistoire. Alors nous, on est plutôt axé sur le 18e siècle avec nos instruments, mais on fait des petites incursions dans le 20e siècle, et on travaille aussi avec un compositeur bien vivant, celui-là, un compositeur contemporain, entre guillemets, qui s'appelle Vincent Bouchot. Et donc ce gros projet, il s'articule surtout autour de trois axes. Donc il y a un spectacle jeune public, Le Rossignol et l'Empereur de Chine, donc d'après le conte, le merveilleux conte d'Andersen. Et là, nous avons travaillé avec un compositeur qui en a écrit une grosse partie de la musique. Il y a aussi un projet de concert, le concert des oiseaux, et là c'est vraiment un programme musical, mais on présente aussi, parce qu'il y a toujours un tas d'anecdotes à raconter, pourquoi tel compositeur a choisi tel oiseau, qu'est-ce qu'il y a de drôle dans cette pièce, etc. Donc on accompagne un peu le public dans la découverte de cet univers musical autour des oiseaux. Donc ça va être de la musique baroque, et puis aussi un peu de répertoire du XXe siècle, avec des arrangements qui ont été faits pour nos instruments. Donc on joue du Ravel, du Saint-Saëns, du Britten, voilà, des pièces comme ça. Ça marche bien d'ailleurs, c'est vraiment plaisant. Et puis on a un programme d'action culturelle avec des conférences musicales, un peu pour toutes sortes de publics. On peut passer dans les écoles, mais on peut passer dans les médiathèques, dans les conservatoires. Et ça permet de construire avec les programmateurs aussi des projets un peu sur mesure. Par exemple, au mois de mars, on va aller à Saint-Nazaire pendant une semaine, et on va aussi bien donner le spectacle que le programme de concert. On va faire des masterclass aussi dans le conservatoire autour des oiseaux de la musique, non seulement avec des gens qui jouent des instruments baroques, mais aussi avec des instrumentistes modernes, entre guillemets. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir construire un projet cohérent avec chaque programmateur. S'il souhaite programmer juste une petite conférence, on fait une petite conférence. Mais des fois, on peut avoir des projets plus fournis aussi, parce qu'il y a tellement de sujets autour des oiseaux et de la musique. On peut parler de la biodiversité, on peut parler de la lutherie aussi, parce que les animaux sont présents dans les instruments. Voilà, il y a des tas de choses qu'on peut aborder sur ce sujet.
Ouais. La transmission, c'est quand même toujours été dans... J'aime pas cette expression, c'est l'impression que tout le monde a fait un doctorat en biologie, dans l'ADN.
Dans notre ADN.
Oui, dans l'ADN de la rêveuse, mais c'est vrai. Vous avez toujours eu souci et eu à cœur à transmettre. Vous l'avez prouvé il y a 2 ou 3 ans en région Val-de-Loire avec l'Opéra Bus, le bus transformé en salle de spectacle qui sillonnait les places de villes et de villages. Vous continuez dans cette transmission.
Oui, alors à travers un sujet qui peut-être parle aux gens aujourd'hui, parce que les oiseaux, on parle beaucoup de chute de la biodiversité, etc. Donc c'est un sujet peut-être qui parle plus aux gens que le sujet de la musique ancienne, et c'est un moyen de voilà d'arriver aussi à parler de la musique ancienne à travers ceci. Et on s'était rendu compte, notamment dans cette grande tournée en opéra bus dont vous parlez, Philippe, que effectivement beaucoup de gens nous disaient « Ah, mais nous, la musique classique, c'est pas pour nous, on n'en a jamais, etc. » Donc c'est vrai que c'est important de tourner dans les grandes salles, mais de tourner aussi dans les petites. Et ce projet Oiseau, il est un peu conçu dans ce sens-là aussi, puisque même le spectacle est assez simple techniquement, donc on peut aussi bien jouer dans une salle des fêtes pas équipée que dans une super salle, super équipée.
Il y a un gros programme pendant cette année, dans le Loiret, dans le Cher, en Anjou, on va en Bretagne, à Rennes, on va aller en Seine-Maritime, à Rouen, on va aller en Charente, à La Rochelle. Enfin, il y a beaucoup, à Saint-Nazaire aussi, en Loire-Atlantique, il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Vous allez avoir tout ce programme sur le site de La Rêveuse, ensemblelarêveuse.com. Merci et à bientôt, Florence.
Merci beaucoup, Philippe. Bonne journée.
France Inter, carnet de campagne.
Deuxième carte Dame du cœur, Pauline qui nous écrit, je cite, après être tombée sur notre émission, bienvenue au club, Pauline, parisienne d'adoption, notre jeune correspondante originaire de Lyon, a suivi des études de journalisme avant de consacrer 7 années de son travail à la presse féminine. Mais, je cite encore, le contact avec les gens me manquait. Et c'est ce qui paraît dans l'argumentaire qui ouvre son site. Aussi, Pauline a-t-elle eu envie de faire du 20e arrondissement de Paris son terrain de prédilection? D'abord, elle vit depuis 8 ans du côté de la porte de Bagnolet. Ensuite, elle s'est toujours reconnue dans l'esprit village qui peut demeurer dans certains quartiers de Paris. Enfin, elle a besoin de revenir au local et au plaisir de marcher, dit-elle, plutôt que d'emprunter les transports urbains. Ainsi est né mon petit 20e, un média qui ambitionne de faire redécouvrir l'arrondissement aux 200 000 personnes qui y vivent. C'est l'équivalent d'une ville comme Reims ou comme Saint-Étienne. Donc chaque jour, Pauline publie une info, un bon plan, et fait part d'une nouveauté dans le quartier, suivie par 16 000 personnes pour l'instant sur Instagram. Mon petit 20e a pris des initiatives particulières, comme un calendrier du confinement qui informait des commerces ouverts pendant la période du premier confinement. Cette année, le média se tourne vers la rédaction de portraits d'habitants en s'inspirant d'interviews qui sont publiés dans Humans of New York, les humains de New York, qui résultent de milliers d'interviews de personnes captées dans la rue. Et pour chacun, une tranche de vie est à lire dans ce média. Pauline prévoit également d'organiser des soirées débats dans les cafés du 20e. Évidemment, nous, l'esprit village de la ville, on aime beaucoup. Le site, c'est monpetit20e.com. Je continue à battre les cartes. On connaît Muriel Robin. J'ai l'honneur de vous présenter Muriel Robin. Entre elles deux, une seule lettre les différencie. C'est donc simple pour retenir son nom. Muriel, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Philippe.
Il y a quelques semaines, j'avais dit quelques mots de votre association qui s'appelle Coverdressing au Havre, qui a créé un label, une marque de reconnaissance qui s'appelle Bien Apporté. Je trouvais ça très ambitieux de votre part, ambitieux dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous considérez et vous tapez du poing sur la table en disant qu'aujourd'hui, les stylistes et les créateurs du prêt-à-porter font du formatage, et les femmes en particulier sont soumises à ce formatage.
Et oui, on peut dire que l'industrie de la mode est quand même plutôt déconnectée des corps, hein, dans toutes ses dimensions. Et pour nous, effectivement, la façon la plus forte, la plus impactante de rendre la mode inclusive, c'est d'agir vraiment sur l'industrie du prêt-à-porter. Ouais. Et c'est ce qui fait que notre projet est unique en son genre, d'ailleurs.
Ouais. Alors, vous avez commencé en recensant les vêtements qui pourraient correspondre à différents types de, non pas uniquement de morphologie, mais de personnes qui parfois ont des difficultés de motricité, ont eu un accident, sont en fauteuil roulant, des problèmes sensoriels. Donc c'était ça l'enjeu.
Oui, tout à fait. On a commencé effectivement en identifiant les vêtements qui pouvaient convenir, puisque c'est un peu sur ce constat qu'est né le projet. Celui que la plupart des personnes qui ont effectivement des troubles d'ordre cognitif, fonctionnel, sensoriel ou des anatomies qui ne sont pas tout à fait conformes aux attentes de la mode, ils parvenaient tout de même à trouver des vêtements qui pouvaient leur convenir, mais avec beaucoup de difficultés et souvent en finissant par s'habiller par défaut. Il suffit de prendre les chiffres de l'INSEE pour se rendre compte que 38,2% précisément des Français sont atteints d'une pathologie chronique ou durable. Donc c'est énorme, c'est quand même 4 clients sur 10 qui rentrent dans une boutique qui potentiellement ont l'une de ces pathologies, et ça ne compte pas les petits bobos du quotidien, le bras dans le plâtre, la tendinite, etc., qui impactent aussi sur l'habillage. Donc c'est énorme, il y a un marché énorme qui est complètement négligé à tort par l'industrie du prêt-à-porter, et voilà, nous on veut leur faire prendre conscience de ça.
Vous avez fait combien pour lancer Cover Dressing et cette marque de reconnaissance bien apportée? 2000 essayages?
Ah oui, oh, plus que ça.
Plus.
Maintenant, ça, 2000, c'était il y a longtemps. On a fait énormément d'essayages de vêtements, effectivement, au début du développement du projet. Maintenant, on a un peu modifié nos façons de travailler. Maintenant, ce que l'on développe, ce sont surtout des ateliers de recherche-action, entre guillemets, avec des marques qui veulent bien jouer le jeu. Donc nous, notre rôle, c'est d'abord de bien identifier quelles sont les problématiques d'habillage liées à une pathologie ciblée. Donc on a travaillé par exemple sur le cancer du sein, on a travaillé sur le syndrome d'Ehlers dans l'os, on commence à travailler sur la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, on a travaillé sur le lymphœdème. Et en fait, à chaque fois, on entre en contact avec des associations de patients, avec des personnels médicaux, donc des kinés, des ergothérapeutes. On identifie donc en long, large et en travers toutes les limitations que cette personne peut avoir par rapport à l'habillement. Donc. Et puis, à partir de ça, on construit un cahier des charges et nous, on organise donc ces cycles d'ateliers de recherche-action avec des marques de prêt-à-porter dans lesquels on fait intervenir toutes les parties prenantes, des personnes concernées, des assos de patients, des personnels soignants. Et le but, c'est d'arriver tous ensemble à créer des vêtements qui font partie des collections classiques, mais qui vont être pensées pour l'enfilage et le port toute la journée par des personnes qui ont des problématiques ciblées. Quand on pense, par exemple, à un vêtement qui sera compatible avec une personne qui a eu un cancer du sein, on va penser, bien sûr, aux cicatrices, on va penser aussi au gros bras, le syndrome du gros bras qui touche beaucoup de personnes qui ont eu cette opération-là. Donc, un bras qui gonfle et qui a un lymphœdème, en fait, ça ne convient pas qu'aux personnes qui ont eu un cancer du sein. Des femmes qui ont des bras un peu trop épais pour rentrer dans les manches que nous propose l'industrie de la mode actuellement, ce sont des millions de femmes, je crois, qui sont concernées. Donc parfois, en entrant par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire en étudiant complètement une pathologie, on pense finalement à un tas de symptômes qui touchent une grande partie de la population et qui permettent vraiment d'améliorer l'ergonomie du vêtement pour tous.
Alors il y a la plateforme collaborative bienapporter.com et en cours de développement, une application mobile aussi.
Oui, tout à fait. En fait, on n'a pas eu trop de chance avec notre site, puisqu'on a lancé juste avant le premier confinement et donc la fermeture des magasins. Et donc, on n'a pas pu lui donner vraiment l'envol qu'on souhaitait, mais ça ne nous a pas empêché de penser des améliorations. Et effectivement, on a plusieurs choses en chantier actuellement, dont une application mobile qui va permettre à toute personne ayant une pathologie que l'on a étudiée de pouvoir trouver, juste en répondant à quelques questions, se voir proposer des vêtements qui sont dans les boutiques de mode voisines ou sur les sites internet, mais qui répondent bien au cahier des charges qu'on aura élaboré.
Alors moi j'aimais bien Muriel Robin, j'aime bien maintenant Muriel Robin aussi.
J'en suis très fière.
Bienapporter.com et il y a une page Facebook à Cover Dressing, c'est au Havre. Merci Muriel.
Mais je vous en prie, merci à vous Philippe.
Je reviens dans le Loiret une petite minute avant de rejoindre là-bas dans le Loiret Beaugency Nicolas Stoufflet pour le jeu. C'est l'association Accueillir 45 qui est née entre les deux premiers confinements pour accueillir des personnes demandeurs d'asile dans des familles. En fait, elle est issue de plusieurs familles qui accueillaient déjà depuis plusieurs années dans leur foyer des migrants et qui aujourd'hui recherchent des familles d'accueil. Alors, la durée d'accueil est fixé à 5 semaines de façon à ce qu'il y ait un répit et que les familles puissent se retrouver. Et il s'agit aussi évidemment d'aider ces personnes à leur intégration, de les accompagner jusqu'à l'obtention de leur titre de séjour, de travail aussi, et puis l'acquisition d'un logement autonome. Il y a un accompagnant qui fait la transition entre les différentes familles et qui les aide dans les démarches administratives. Si vous voulez contribuer à cet élan de générosité, accueillir45@laposte.net pour l'adresse